Mercredi 16 mai 2018. C'est l'anniversaire de mon petit frère Michel aujourd'hui, alors c'était difficile d'oublier la date. Alors, bonne fête, Michel. Je sais qu'il ne m'écoute pas, mais c'est pas grave. J'y ferai entendre l'enregistrement.
J'écouterai en reprise, en rediffusion.
Alors aujourd'hui, on est en tête-à-tête, Daniel et moi. Serge se prélasse sur une plage quelque part ou déguste une sangria ou peut-être fait la grasse matinée.
Ou peut-être qu'il gèle aussi à quelque part.
Peut-être. En tout cas, si c'est au Québec, oui, il y a des chances qu'il y ait froid. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de... je vais vous parler de tatouages autochtones, de surveillance d'oléoduc, et je vais vous parler de pêche aussi.
Ah, OK.
Et, les petits poissons.
Bon. Et moi...
et les gros poissons, en fait.
Ah, OK. Oui. Et moi, je vais vous parler d'une formidable... une formidable nana. C'est le titre de l'article, c'est pas moi qui l'a dit comme ça, en première partie. Et je vais vous parler aussi un peu de Richard Desjardins.
Oui.
Et en deuxième partie, probablement, je vais vous parler de Charles Dutoit.
À voir.
Oui,
ou à entendre. Et on commence tout de suite avec cette formidable
nana.
Oui,
on commence avec la nana. C'est un article qui a attiré mon attention à cause du titre, premièrement, effectivement. Et ensuite, parce que c'est une personne dont il me semble que je n'avais pas entendu parler depuis un bon bout de temps. Un article que j'ai trouvé dans La Presse Plus, l'édition du 12 mai, dans la section art, et non pas dans la section sport.
Fruits et légumes,
ouais,
pour non. Anana, non.
Donc, sport. Une formidable nana. Rares sont les artistes qui peuvent... Un jeu de mots avec Anana, là, non?
Excusez-moi, j'ai fait une joke de papa, là, ça doit être...
OK. Mais ça
mon
pas
âge
une joke de
mon
oncle, d'habitude, qu'on appelle
non,
ça.
Non, mais parce que le phénomène des jokes de papa sur Internet...
Oui, oui, effectivement, oui. Changer de titre. Donc, rares sont les artistes qui peuvent se vanter d'avoir une carrière qui couvre plus de 4 générations. Ils sont rares, mais il y en a quelques-unes. Quand même, la semaine dernière, je vous ai parlé de Petula Clark.
Quand même, effectivement. Cas.
Donc, j'en ai déniché une autre.
Mais oui, c'est vrai que c'est quand même...
C'est le cas de Nana Mouskouri. À 83 ans, la chanteuse n'a rien perdu de sa ferveur et de son enthousiasme. Les Montréalais la retrouveront samedi prochain sur la scène de la Maison symphonique. Rien de moins.
Quand même.
Rencontre avec une femme passionnée. Droite comme un i, impeccablement maquillée, les doigts ornés de bagues, Nana Mouskouri était à Montréal en avril dernier pour nous présenter son petit dernier, Forever Young, un album de reprises qui va d'Elvis Presley à Leonard Cohen en passant par les Beatles et Bryan Adams. À 83 ans, la chanteuse d'origine grecque n'a pas fini de nous surprendre. C'est pour rendre hommage aux chansons indémodables ou éternelles qu'elle a voulu faire cet album. Mais Forever Young, c'est aussi un état d'esprit chez elle. Quand j'ai entrepris ma tournée d'adieu, je ne sais pas laquelle, j'ai croisé Charles Aznavour et on a parlé de la jeunesse ensemble. Il a 10 ans de plus que moi et il m'a dit « C'est quoi cette idée de te retirer? Qu'est-ce que tu vas faire? Il ne faut pas abandonner, voyons. Fais comme moi. » Donc, c'est un peu sa
lui,
faute.
Lui, Charles Aznavour, c'est quoi, 5 générations?
Je ne sais pas quel âge exactement.
Ben, 10 ans de plus qu'elle, donc ça fait 93 à peu près, si
ouais,
on fait le,
ouais,
le
effectivement,
calcul.
Oui, c'est assez...
Puis ça dépend quel âge il a commencé à chanter, mais il me semble qu'il était assez jeune.
Aussi, mais je sais qu'il était encore en tournée dernièrement, mais il s'est blessé, il a été obligé d'arrêter. Là.
Ah oui, ça c'est...
Je ne sais pas s'il va reporter la tournée dans quelques années ou...
Oh. C'est ça.
Ce serait optimiste un peu. C'est cette jeunesse d'Aznavour qui m'a rappelé la chanson « Forever Young ». Vous, vous êtes journaliste, vous avez une page blanche devant vous et vous devez la remplir. Nous, nous avons une salle noire devant nous et nous devons l'éclairer avec la musique.
Ah, oh, c'est beau,
belle image,
ça,
hein,
j'aime
quand
ça.
Même. Oui, ça, il faut l'avouer. Chanter, c'est une façon de rester jeune et surtout de faire en sorte que les chansons restent pour toujours. C'est comme ça que j'ai approché cet album. Sur « Forever Young », Nana nous surprend également avec une chanson d'Amy Winehouse.
Ah.
Je serais curieux d'entendre ça.
Oui.
Pour moi, c'est une immortelle qui a créé des chansons qui resteront, souligne la chanteuse, dont l'interprétation de « Love is a losing game » révèle toute la fragilité des paroles de la jeune chanteuse au destin tragique. « Je compte beaucoup sur la nouvelle génération », poursuit-elle. « J'ai eu la chance de vivre longtemps, c'est au tour des jeunes maintenant. Nous, les vieux, pouvons les supporter, mais nous pouvons aussi être influencés par leur énergie, leur façon de dire les choses différemment. Nana Mouskouri a choisi des chansons qu'elle n'avait jamais encore enregistrées, un défi pour cette chanteuse qui compte 1967 enregistrements originaux à son actif.
1900, ça fait beaucoup.
Ça fait quelques-uns par année quand même.
Ouais.
Je choisis moi-même mes chansons, puis je les présente aux musiciens et à mon mari, qui est aussi mon producteur. Il y a Bob Dylan que j'aime beaucoup. Barbara, qui n'est pas quelqu'un qu'on peut chanter facilement, car ses chansons sont tellement personnelles, des chansons tristes qui comportent tout de même une note d'espoir. Et il y a In the Ghetto d'Elvis Presley, parce que cette chanson aurait pu être écrite aujourd'hui, et parce que je suis sensible à ce qui se passe dans la société. On trouve des ghettos partout en Europe, malheureusement. Les liens de la chanteuse avec Montréal sont profonds. Elle est venue ici très souvent au long de sa carrière et son fils habite ici aujourd'hui. Quand j'ai commencé à chanter dans les années 60, j'étais à Montréal pour le premier anniversaire de mon fils. Puis je suis revenu avec ma fille et lui. J'étais une maman volante et je crois que les gens ne voyaient pas seulement la chanteuse, ils voyaient la famille et ils nous prenaient comme ça. Et moi, ben, je voulais être une « girl next door », une fille ordinaire, tout en respectant ce que je faisais, bien entendu. Au fil des ans, elle a tissé des liens avec plusieurs chanteurs d'ici et encore aujourd'hui, elle se considère comme quelqu'un de la famille. J'ai l'impression de connaître le public montréalais, je suis très ému chaque fois que je les retrouve. Elle parle aussi de son amitié avec Leonard Cohen qu'elle a rencontré dans les années 70. Il est venu m'écouter à la Place des Arts et on est resté en contact. J'ai chanté plusieurs de ses chansons, se rappelle l'interprète, qui comptait bien profiter de son passage dans la métropole pour parler avec Adam Cohen d'un éventuel spectacle hommage qu'elle aimerait organiser en Grèce. Bien sûr, avec une si longue carrière à son actif, Nana Mouskouri ne manque pas d'anecdotes, comme cette fois à Las Vegas où elle a dû renoncer à rencontrer Elvis Presley parce qu'elle était l'invitée de Liberace et qu'elle ne voulait pas être impolie. « Je l'ai beaucoup regretté », confie-t-elle.
J'avoue.
Son autre regret, de ne jamais avoir chanté avec Johnny Hallyday. « J'aime les rockers », confie-t-elle avec un sourire. Cette femme qui maîtrise plusieurs langues, qui a rempli des salles dans le monde entier et qui a enregistré plus de 1000 chansons, avoue, on parlait de 1967.
Oui, c'est
peut-être
ça.
Peut-être qu'elle a enregistré deux fois les mêmes.
Ah, peut-être, oui.
Chanson, elle avoue qu'elle était gênée d'approcher le célèbre chanteur français. « Je ne me sentais pas à la hauteur », dit-elle. Sacré nana.
Alors, de la nana française, moi, je vous amène sur la Côte-Nord. C'est un article que j'ai pris sur le site de Radio-Canada, ici Côte-Nord, publié le 8 mai dernier. Première ébauche d'entente sur la gestion de la rivière Moisy. On a beaucoup parlé là, de la pêche au saumon parce que le gouvernement a décidé de restreindre la pêche au saumon dans les pourvoiries et seulement dans les pourvoiries du Nord. Et là, c'est seulement les riches qui peuvent y aller parce qu'il faut y aller en avion. Bref, il y a eu plusieurs discussions, mais c'est aussi un enjeu. Et d'ailleurs, on en a aussi parlé en rapport avec les Inuits qui auraient été impliqués dans ces demandes-là pour protéger le poisson, en fait. Mais bref, ici, c'est des Inuits dont je vais vous parler. Dans un document de projet obtenu par Radio-Canada, Québec envisage d'offrir une aide financière à la communauté de Ouachat-Malioténam pour qu'elle puisse acquérir une pourvoirie dans les plus brefs délais. C'est un article d'Émilie Duchesne. Le projet d'entente, prévoit aussi un rôle accru de la communauté dans la création et la gestion du projet de réserve aquatique de la rivière Moisy-Michetashipu. Les objectifs du projet d'entente sont de proposer des mesures concrètes pour faciliter l'accès et la participation des Inuits de Ouachat-Malioténam à la gestion de la rivière Moisy et intensifier la participation des Inuits de Ouachat-Malioténam à la conservation des ressources et à la protection de la rivière Moisy. Une clause du document de travail précise que ce projet d'entente ne constituerait pas une renonciation ou une modification des droits ancestraux de la communauté. Un code de pêche coutumier pourrait être mis par écrit, bonifié et inclus dans l'entente finale. Selon le chef de Ouachat-Malioténam, Mike McKenzie, les Inuits souhaitent élargir leur accès à la pêche sur la rivière Moisy, protéger la rivière et participer à sa gestion. Depuis 1999 que l'on a des ententes administratives où les zones de pêche sont très restreintes. Ça fait qu'on veut élargir, on veut prendre de l'expansion, on veut protéger la rivière aussi, c'est un patrimoine innu. On parle souvent de co-gestion aussi. Il existe souvent des ententes partout ailleurs, comme les Micmacs, ils gèrent eux-mêmes leur propre rivière. Nous aussi, on veut quand même gérer la rivière. Mike McKenzie insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'un document de travail et que lui-même n'a seulement que le mandat de négocier. Actuellement, c'est un document qui est une première ébauche. Dans les négociations, il y a toujours une ébauche qui s'échange entre les deux parties. Il déplore qu'une copie du projet d'entente entre le Conseil de bande et le gouvernement du Québec ait été remise aux médias. C'est vraiment surprenant qu'un document circule. Peut-être même un élu a circulé devant les journalistes pendant qu'on négocie. Dans n'importe quelle instance gouvernementale, d'habitude, ça reste à l'interne. Le conseiller au conseil de bande de Ouachat-Malioténam, Jonathan Saint-Onge, craint, lui, que le projet de réserve aquatique soit une porte d'entrée pour des projets de dérivation de la rivière Opécan et de la rivière Careil, des affluents de la rivière Moisy, vers le réservoir de Sainte-Marguerite III, ou SM3. Pourquoi faire une réserve aquatique permanente, croyez-vous? Parce que derrière une réserve aquatique permanente, le gouvernement se donne toujours le dernier mot. S'il a le dernier mot pour dériver la rivière Pécan et Careil, il va le faire. Par le passé, Hydro-Québec avait déjà voulu dériver ses rivières pour accroître le potentiel hydroélectrique de la centrale SM3. La Société d'État nous a confirmé qu'elle était en négociation avec le conseil de bande de Ouachat-Malioténam pour installer un troisième groupe turbine alternateur à la centrale. Par contre, Hydro-Québec affirme qu'elle n'a pas l'intention de dériver les rivières Careil et Pécan. Mais Jonathan Saint-Onge ne fait pas confiance à Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est un des meilleurs menteurs qu'on a eu de toutes les négociations de l'existence entre les Inuits et le gouvernement du Québec. Et je, c'est pas moi qui va contredire, M. Saint-Onge.
Bon.
Le conseiller voudrait que les négociations portent sur la création d'une aire protégée autochtone et que le conseil de bande de Matimekouche-Lac-John soit invité à joindre la table de négociation. Ce que nous voulons, c'est vraiment que les Inuits de Ouachat-Malioténam gèrent la rivière Moisy à eux tout seuls, avec nos frères Matimekouche-Lac-John. Plus encore, Jonathan Saint-Onge estime que la forme actuelle du projet d'entente limite la portée des droits ancestraux des Inuits qui fréquentent la rivière Moisy. Selon lui, l'encadrement des pratiques de pêche Inuits porte directement atteinte aux droits ancestraux. Moi, j'ai eu le dossier en 2016. Les Inuits m'ont carrément dit de ne pas signer une entente avec le gouvernement du Québec, là où ça réduit la portée de nos droits. Et là, j'ai été déconcentrée parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas lire cet article en première partie, mais...
Bon, c'est trop tard.
C'est Nana Mouskouri qui m'a entraînée sur la rivière.
Alors, on peut pas faire de rewind ici.
En terminant, Jonathan Saint-Onge réclame que toute entente entre le Conseil de bande et le gouvernement du Québec soit soumise en référendum à la communauté. Le chef McKenzie n'a pas confirmé ni exclu le recours à un référendum.
Je tombe du plume, mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. Dehors y'a un orage, ils sont mouillés, c'est nul. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Vous êtes sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Quand le soleil arrive, mon amour se réveille. Le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil. Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie. Paroles éphémères et tout petits soucis. J'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi. C'est sûrement très tendre, enfin bon, j'entends pas. Moi je plante mon hameçon tout en haut d'une branche. Je tire sur le nylon, me ruine une phalange. Le jour avance un peu, mon amour se maquille. Un œil et puis les deux, c'est futile mais ça brille. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça, que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche, et que vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Moi je sors une truite d'au moins 120 kilos, j'ai pitié trop petite, je la rejette à l'eau. Je reviens les mains vides, trop de vent, pas assez, l'eau était trop humide. Alors je rentre chez moi, triste comme un menhir, mais personne n'est là pour m'entendre mentir. Mon amour est parti, mais parti pour toujours. J'ai perdu mon amour, j'ai perdu ma vie. Si je peux, la gamine, sans mêler dans les branches, à la pêche à la ligne. J'emmènerai dimanche, si je veux, la gamine, sans mêler dans les branches, à la pêche à la ligne.
Et on aura sans doute reconnu Renaud et la pièce « La pêche à la ligne ».
Et je ne sais pas si le saumon est pêché à la ligne, mais c'était tellement une belle occasion d'écouter Renaud.
Bon.
Et vous allez nous amener ailleurs?
Oui, c'est un article qui est paru ce matin dans la Presse Plus. Ça a vraiment attiré mon attention, donc je vais vous le lire. On parle de Charles Dutoit ici.
Ah oui, on change complètement de sujet.
Oui, on a parlé d'lui un peu dernièrement, et là, ça a l'air un peu du sérieux. Le titre, c'est « Dutoit sera dépouillé de l'Ordre de Montréal ». La mairesse de Montréal, Valérie Plante, recommandera dans les prochains jours que l'ex-maestro de l'Orchestre symphonique de Montréal, Charles Dutoit, soit dépouillé de l'Ordre de Montréal dont il a été récipiendaire en 2016, a appris la presse. Le bureau du directeur général Alain Marcoux a en effet fait parvenir une nouvelle procédure de révocation à l'Ordre de Montréal pour adoption au comité exécutif qui se tiendra aujourd'hui. L'adoption de cette procédure constitue la première étape pour retirer son insigne de commandeur, la plus haute distinction de l'Ordre de Montréal, à Charles Dutoit. Une fois ce document officiel adopté, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, fera une demande au comité consultatif de l'Ordre afin que M. Dutoit se fasse retirer son insigne de commandeur. L'intention de la mairesse est de faire la demande rapidement, nous indique une source proche de Mme Plante. La résolution instituant l'Ordre de Montréal, adoptée en 2016, comportait une formule de révocation très restrictive. Seuls les récipiendaires dont la culpabilité était reconnue devant les tribunaux pouvaient être dépouillés de leur décoration. Il fallait adopter un nouveau texte, plus en phase avec la société dans laquelle on vit, indique notre source.
Ah oui.
Donc, c'est un genre de dérogation, ce que je comprends.
C'est un peu sujet à débat, ça, hein, parce que c'est pas évident. C'est facile, des fois, de faire un procès sur la place publique.
Très délicat. Tant que le procès n'a pas eu lieu.
Il y a une présomption d'innocence.
Des fois, j'ai l'impression qu'on met un peu la charrue devant les bœufs. Bon, peut-être qu'il y a des preuves assez solides quand même.
Moi, ce que je me demande, c'est son insigne, ça. J'imagine ça vient avec une vraie insigne physique là, qu'on peut mettre sur
Peut-être.
Si jamais c'est le cas, de quoi il l'a déjà vendu? Qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux pas la remettre.
Il l'a vendu un œuf de charité.
Il y en a qui ont fait
de
l'argent. Oui, c'est ça.
Ça va peut-être valoir encore plus cher.
Peut-être, c'est ça.
C'est déjà en circulation.
Ouais.
Dans cette procédure revue et corrigée que la presse a obtenue, on préciserait donc qu'un récipiendaire de l'ordre qui aurait commis un écart de conduite grave considéré comme une atteinte à la réputation, à l'intégrité ou à la valeur de l'ordre pourrait se voir retirer sa décoration. De même, si une personne décorée avait fait l'objet d'une sanction officielle, comme une amende ou un blâme par un organe d'arbitrage, une association professionnelle ou toute autre organisation. Le processus irait donc comme suit. La demande d'examen de la révocation doit être présentée par écrit au secrétariat de l'Ordre de Montréal. Si on juge que les motifs de révocation sont soutenables, la personne visée est avertie. Elle peut choisir de démissionner ou de plaider sa cause. Au bout du compte, c'est un rapport du Conseil consultatif de l'Ordre qui recommande au bureau du maire de destituer le membre visé ou non. Dans le cas de M. Dutoit, c'est la mairesse elle-même qui présentera la demande de révocation. On saute une étape ici.
Oui.
Rappelons que depuis 5 mois, Charles Dutoit est visé par des allégations de harcèlement et d'agression sexuelle ainsi que de harcèlement psychologique à l'endroit de nombreux musiciens. Juste avant Noël, 3 femmes, 2 chanteuses d'opéra et 1 musicienne, ont d'abord affirmé à l'Associated Press avoir été agressées par M. Dutoit entre 1985 et 2010. Dans les semaines qui ont suivi, les témoignages de 6 autres femmes se sont ajoutés, dont la soprano Pauline Vaillancourt et la journaliste à l'époque Mary Lou Bassaraba. 2 de ces agressions auraient eu lieu à Montréal alors que M. Dutoit était chef de l'OSM. Par l'entremise de son avocat, Charles Dutoit a catégoriquement nié les faits et il s'est dit particulièrement horrifié que quelqu'un l'accuse de viol. Une enquêteuse externe a été mandatée par l'OSM pour scruter les années Dutoit. Le maestro a été directeur de l'OSM de 1977 à 2002. Quand même, c'est une bonne période.
Oui, une bonne période.
Puis, en février dernier, la presse et Le Devoir ont recueilli les témoignages d'une 15aine de musiciens qui dénonçaient le climat de travail insupportable instauré par le maestro Dutoit. Musiciens en larmes, poussés à bout, brisés psychologiquement. À l'époque de la démission de M. Dutoit, plus de la moitié des musiciens avaient signé une pétition où l'on dénonçait l'attitude du chef d'orchestre envers ses musiciens. Donc, il y avait quand même...
Mais ça, c'est vraiment...
Il y avait un malaise,
mais c'est vraiment un signe de qu'il y a quelque chose qui a changé dans la société. Parce que je me souviens, quand j'ai quitté Montréal, tout le monde, le harcèlement psychologique, là, c'était connu. Partie de... Puis c'était accepté dans le milieu. Mais là, aujourd'hui, on dit non à ça. Là.
Non, effectivement, il commence à avoir un changement qui se fait. Des sources ont indiqué à la presse que le conseil exécutif de l'OSM, qui avait été mis au courant des agissements de M. Dutoit au fil des ans et qu'ils avaient abordé cet enjeu délicat avec le chef d'orchestre. Donc, ils disent qu'ils avaient abordé cet enjeu avec le chef d'orchestre.
Puis comment ils l'ont abordé, peut-être en disant « Tu peux-tu juste faire attention que ça paraisse pas? »
Oui, ça, on ne dit pas la façon dont ça a été abordé. Sauf que souvent, je pense, ce genre de personnalité-là se trouve toujours des excuses ou des portes de sortie de dire que c'est la façon de fonctionner.
Mais c'est ça, exactement. C'était,
c'est ça qu'il faut que change.
C'était accepté.
Depuis décembre, 8 orchestres ont rompu leur lien avec M. Dutoit. Le maestro s'est aussi retiré plus tôt que prévu de ses fonctions de directeur artistique et chef d'orchestre principal du Royal Philharmonic Orchestra de Londres.
Là, je vous amène enfin vers quelque chose de réjouissant. Et on change complètement de sujet. Exploit majeur chez les Mohawks. C'est un article de François-David Rouleau paru le 13 mai dans le Journal de Montréal, dans la section sport. Et plus précisément, dans la section sport golf. Ouais. On avait déjà entendu parler de golf en lien avec les Mohawks de Kanasetake, mais c'était quand il y avait eu la crise d'Oka. Là. C'était parce qu'il y avait un golf
90,
qui voulait...
Ça, si vous vous souvenez, bon. Hein,
alors là, on va en parler de façon plus positive. Frankie Junior McCumber a écrit une page d'histoire de la communauté Mohawk l'automne dernier. Sans fouler les allées du tournoi des maîtres, des omniums américains et britanniques ou du championnat de la PGA, il a réussi ce qu'aucun de ses pairs n'avait accompli en plus de 100 ans d'histoire, soit remporter le championnat du golf du club de golf Kanawaki. Un exploit majeur pour cette communauté. Bien que le logo de ce prestigieux club présente la silhouette d'un chef amérindien, aucun autochtone n'avait mis la main sur le trophée. Âgé de 20 ans, McCumber a brisé la séquence de l'homme blanc sous leurs chauds applaudissements. Il n'est pas ici question de racisme de l'autre côté du pont Mercier, mais d'une histoire, d'un accomplissement sans précédent. L'annonce de cette victoire s'est répandue comme une traînée de poudre sur la réserve. « C'est encore invraisemblable. Je n'en crois toujours pas mes yeux », s'exclame Frankie Junior. « Je me souviens qu'au trou final, mon cadet m'a dit que je serais le premier golfeur sur la réserve à accomplir cet exploit. Je n'aurais jamais cru ça. J'ai reçu des félicitations partout où je passais », poursuit le jeune homme. « J'ai serré tellement de mains, j'en serre encore. La communauté est très fière. » Dans son enfance, Frankie n'a jamais rêvé de lever ce trophée. Il n'a pas grandi dans le golf. Il a commencé à titiller la petite balle blanche vers l'âge de 12 ans avant de tomber en amour avec le sport. Le seul golfeur parmi les 5 enfants McCumber. Traverser les portes du club de golf était déjà inespéré. Le titre de champion était donc utopique. C'est complètement fou. J'avais l'occasion de le gagner et j'ai saisi cette chance. J'étais épaulée par un cadet d'ici qui m'a beaucoup aidée. Sans lui, ça n'aurait pas été possible. Avant la ronde finale, je tirais de l'arrière par quelques coups, se souvient celui qui a calé un oiselet au 17e fanion pour s'offrir une confortable avance sur le trou final. Il était alors flanqué de son cousin Chris White, qui l'a longtemps suivi dans sa progression sur les allées. Ce n'est toutefois pas le seul trophée qu'il a remporté à Kanawake. Avec son paternel Frank, il a mis le grappin sur le championnat père et fils il y a quelques années. C'est d'ailleurs celui-ci qui l'a poussé à se surpasser sur les allées. Après avoir appris les rudiments, il s'est exilé vers la Floride afin de terminer ses études secondaires dans un programme académique orienté vers le golf à Saddlebrook, au nord de Tampa. Même s'il se démarquait, il a rapidement observé qu'il n'était pas aussi doué que les golfeurs américains et internationaux. Fiston, alors quand même, il garde une humilité, conscience de ses faiblesses et misé sur ses forces. Fiston a terminé ses études et il est rentré au Québec où il poursuit son parcours universitaire en sciences politiques à l'Université Concordia. Sans surprise, il désire faire partie des Stingers en vue de la prochaine saison universitaire. J'imagine que ça doit être l'équipe de golf de Concordia.
Je connais pas, moi.
J'ai aucune idée, en fait, j'ai pas vérifié. Il a encore beaucoup de choses à apprendre, dit l'entraîneur de l'équipe, Ben Pinchot, qui le voit comme un bel espoir dans le futur. Entre-temps, McCumber aura à défendre son titre à Kanawake. Avec la communauté derrière lui, il vise à nouveau le gros trophée. Avez-vous déjà fait un trou d'un coup au golf, Daniel?
Au mini-pot seulement. Oui. Non, je suis pas un très bon golfeur.
Moi, je suis vraiment très, très pourrie comme golfeuse, mais j'adore le golf. Ouais. C'est un sport, ben, pas à regarder. Hein.
J'aime jouer après 9 ou 10 trous. Je suis un peu tanné, j'avoue.
Ouais, ça. Mais c'est le fun de se promener dehors.
Oui, oui, effectivement. Effectivement. Avec un petit kart électrique, là, par exemple.
Oui, ouais. Oui, c'est ça. Alors, c'est sur cette discussion de remplissage que se termine la première partie des voies de service. On vous revient après une courte pause avec plein d'autres sujets. Merci.
Thank you. façon d'aller sur le chemin de la McDonald's. C'était un de ces soirs si doux que tout va jusqu'au bout. Il a remercié la lune de rouler en station. Quoi ton nom?
Le beau grand slow, on a entendu une version qui a été repopularisée par Éric Lapointe et également par Richard Desjardins. C'était ici la version originale du beau grand slow par la formation Abitibi de leur premier album Boomtown Café.
Et quel hasard, hein?
quel hasard!
J'avais justement l'intention de vous en parler. Un article que j'ai trouvé dans Le Devoir le 12 mai qui s'appelle « Bienvenue au Boomtown Café ». Trois décennies et demie plus tard, le disque mythique du groupe d'avant la carrière solo de Richard Desjardins a droit aux grands égards d'une digne réédition. Justice est faite. Rémi Perron s'empare de mon exemplaire de la réédition de Boomtown Café déposé sur la table. Je ne l'ai pas vu encore. Il soupèse le CD, l'examine, admire la nouvelle pochette qu'il montre à Richard Desjardins. On voit le groupe Abitibi autour d'une grande table à l'intérieur d'une bâtisse en bois. La photo est signée Robert Mondry. Fierté dans le regard de Rémi. Un nuage noir passe dans les yeux de Richard. Une très ancienne colère remonte à la surface des mots.
Ah oui.
Quand on avait eu la pochette du vinyle en 1981, tu te rappelles, Rémi, avec la petite fumée blanche qui sortait de la cheminée de l'usine, tabarnak, en pleine catastrophe écologique. C'est écrit dans le texte, c'est pas
moi. Oh ouais, c'est correct.
Je la trouvais pas drôle. 37 ans plus tard, la suture lâche encore. En même temps, Robert Mondry et moi, on faisait un film sur Noranda, imagine. Bête et sempiternelle histoire de sabotage que ce premier album mythique d'Abitibi. Pochette imposée, matrissage aplati. Matrissage, c'est dans le fond, c'est le son global de l'album.
Ouais, ouais, qui était...
Musique amputée de ses plus hautes et plus basses fréquences, zéro promo. On avait organisé de quoi à Rouen pour lancer le disque, mais à Montréal, il n'y avait rien eu. Rien. Petite pause de Richard, le conteur. On n'a plus jamais revu les deux productrices. On n'a jamais su combien de copies avaient été tirées, ni combien avaient été vendues.
Ben voyons
rien.
Donc.
C'est spécial quand même.
Ben
hein?
Oui.
Quand tu dis que tu perds le contrôle de ton produit,
ben oui, c'est ça,
c'est un exemple parfait. Ainsi prit fin la première vie d'Abitibi. Tu comprends, nous autres, on voulait faire un disque, on pensait pas plus loin. Et elles, c'était les seules qui avaient dit oui. Morale de l'histoire, il n'y a rien de plus fragile qu'un orchestre qui se cherche un producteur. Et ça, c'est une histoire qui est arrivée, j'imagine, d'innombrables fois.
Oui,
tout le monde qui fait de la musique rêve d'enregistrer un disque un jour.
Et ça a changé beaucoup aujourd'hui parce qu'on peut s'auto-produire, on peut être juste en ligne puis se faire connaître comme ça.
Puis avec les moyens de communication aujourd'hui, les gens sont plus informés aussi. Mm. C'est normal.
Parce qu'à l'époque, pour jouer à la radio, il fallait avoir un disque. Tandis qu'aujourd'hui, on peut avoir juste un single sur...
Puis non seulement il fallait avoir un disque, mais il fallait avoir un producteur qui peut ouvrir des portes.
Exactement.
Bon,
ouais.
Cas, bref, on voit ça.
Ça, c'est encore probablement utile aujourd'hui, par contre.
Ainsi, Richard Desjardins devint-il artiste solo. En 1988, 7 ans plus tard, c'était Les Derniers Humains et Tu m'aimes-tu en 1990. Difficile de se plaindre d'un destin qui a permis ça. N'empêche qu'au jeu des possibles, il y a dans la tête de chaque ancien d'Abitibi un paysage qui se dessinait. Un vrai succès, comme Offenbach ou Harmonium. Une suite d'autres albums. Au moins 5, s'exclame Richard. Oui, il y avait quand même des projets.
Ah ouais.
Une vraie vie complète de groupe. Écoute, on était vraiment bon. On avait toute une palette. On était country, on était prog, on était jazz, tout en même temps. On faisait des shows de 4 heures, ça levait dans la place, on tenait quelque chose. En studio, avant le rapetissage au lavage, l'album était formidable. Cela s'entend maintenant qu'on a la réédition restaurée à partir des bandes maîtresses. Ça a été toute une affaire, un vrai roman d'espionnage. Retrouver l'une des productrices, racheter les droits, récupérer les bandes qui, miracle, existaient encore dans 2 places différentes. Et en pas pire état.
Ça, c'est un vrai miracle.
Oui, c'est un vrai miracle. Vraiment. Quoi que ça
considérant tout ce qui a été dit avant, là,
ouais,
qu'ils ne savaient même pas.
Oui, dans leur cas, ouais,
oui. Oui, c'est ça,
vrai
dans
miracle.
Leur cas.
Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, on entend de plus souvent
en retrouve,
souvent
hein,
des histoires comme ça, des vieux masters qui ressortent, puis on refait, bon, on fait du ménage un peu. On est chanceux, finalement, parce que là, ça sonne comme c'était censé sonner.
C'est un exercice de
diction, ça. Ouais, ça s'écrit bien, mais c'est un bon exercice de diction, effectivement. Ça sonne comme quand on l'a mixé nous autres, autrement dit, avant que la
compagnie que ça soit aplati.
Ouais. Richard
ou
et Rémi. Richard et Rémi se regardent, se sourient. Richard continue. Ça, c'était le moment magique. Il y avait 48 pitons à partir du bass drum jusqu'au piccolo. Chaque musicien est installé devant les pitons de son instrument. En fait, ça, c'est, il décrit. Quand on fait le mixage, on est devant une console avec plusieurs entrées.
Ouais,
dans
ouais.
ce cas-là, ben, c'était 48 entrées. Et chaque instrument avait sa place. Nommons-les. Gary Farrell aux guitares, Claude Vendette au saxo, à la flûte, Théo Bush au violon, Michel Jeté à la batterie, Rémi à la basse, Richard au piano. Ça partait et on mixait toute la gang. Hostique, c'était le fun. C'est encore là. C'est, je cite l'auteur. Les gars éclatent d'un beau rire aussi bien que le beau grand slow. L'une des chansons de l'album que le public découvrit en 1993 sur l'album Au Club Soda, en même temps que Le Chant du Bum et Boomtown Café. Il faudra attendre l'album Boom Boom en 1998 pour y obtenir « Il va toujours y avoir ». Richard, il fallait pas que l'ego soit trop fort et que tu te montres trop par rapport aux autres. Et Rémi ajoute « On se respectait, on connaissait nos forces ». Richard réfléchit tout haut. Je me suis demandé si ça aurait vraiment pu marcher, même avec le bon son et la bonne pochette. Tu sais, on a enregistré ça en novembre 1980. On l'a sorti en octobre 1981. Le référendum avait eu lieu en mai 80. L'avait emporté.
Ouais.
La plupart des groupes s'étaient dissous et la chanson québécoise en français dans le texte était entrée au purgatoire, punie d'avoir porté le rêve de la nation et portant le deuil d'un peuple. Hello The Box, un petit clin d'œil au groupe
mais
The Box. Qui...
J'avais jamais vu ça comme ça.
Mais non, mais effectivement, il y avait eu vraiment une vague. À la fin des années 70, les
mais
groupes comme Harmonium,
pour...
Harmonium, Beau Dommage, Fiori, tout ça, c'était fini.
Ouais.
Il n'y avait plus de place pour nous autres, résume Rémi. C'était moins magique, mettons, tranche Richard. C'est pour ça qu'une fois que moi, j'ai commencé à vendre des disques avec Tu m'aimes-tu, j'ai voulu qu'Abitibi en profite un peu. C'est pour ça qu'on s'est réunis pour faire Chaud était la nuit, et Desjardins à BTB Live pour montrer au monde qu'on était vraiment bon.
J'aime ça.
Oui, il tient beaucoup.
Ouais,
hein.
Ouais.
Et il y a certaines fiertés là-dedans quand
mais
même,
y a
qui est belle à voir. Ben oui. Il faut y croire. Hein.
Ouais.
Rémi évoque un spectacle d'ABTB, première époque, dans un café campus délirant de joie. Le 3 janvier 1978, précise Richard. Mon fils est né le 4. Quand je suis arrivé à la maison après 4 heures de show, les os ont crevé. Je peux pas l'oublier cette fois-là. Il y a des liens qu'on fait des fois. C'est facile.
Ouais.
À...
Ouais.
Comme tout le monde, je pose la question à 1 million. Réécouter l'album et le trouver aussi bon, ça donne pas envie de le célébrer. Pas moi, déclare Richard. C'est trop d'ouvrage. Rémi en aurait envie, c'est écrit dans sa face. Et Richard fait la moue. On pourrait, c'est sûr qu'on pourrait. Moi, je veux continuer à travailler tranquillement. Cet été, je vais publier dans la revue Liberté un texte que je viens de finir, Les Algonquins de Val-d'Or. Je vais te dire, ça rentre au poste.
On a maintenant.
On a maintenant Boomtown Café, l'album, en CD et en vinyle. C'est déjà pas mal inespéré, comprends-je à demi-mot. On a réparé une injustice, on s'est enlevé une épine qui était encore plantée dans le pied. C'est Richard Desjardins, ancien des Fabulous Cascades, qui le dit à Rémi Perron, ancien des Caïds et ancien accompagnateur de Mark Hamilton. Hey, on retourne loin en arrière. Il dit « On a fait ce qu'on avait à faire ». Il y a eu bien des changements de personnel en cours de route, mais on peut dire qu'Abitibi a existé parce que Rémi Perron le voulait ardemment. Extrait du texte de Richard Desjardins dans le livret de la réédition de Boomtown Café. Écrire du rock ou du folk en français, voilà comment parvenir à la gloire, se disait-on à l'époque. Rémi ne me lâcherait plus jusqu'à ce qu'on arrive au bout de notre projet.
J'adore Charles Desjardins. Et je vais parler d'un sujet qui tient sûrement à cœur à M. Desjardins aussi, puisqu'on a une question de surveillance de l'Oléoduc. Les Premières Nations mises à contribution, c'est un article qui a été publié sur lapresse.ca le 6 mai dernier, et c'est signé Lorraine Krugel de la Presse canadienne. Gerald Scott avait pris part à la résistance contre l'Oléoduc Dakota Access sur la réserve de Standing Rock aux États-Unis. Moi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est ce qui avait fait que j'avais décidé de me mettre à parler du monde autochtone parce okay, que je m'étais rendu compte qu'on n'en parlait jamais. Puis ça, c'était un sujet un peu loin de nous, mais proche en même temps parce qu'ils se battaient contre le passage d'un oléoduc là, sur leur terre. Alors, Gerald Scott, donc, est-ce que j'ai dit maintenant il se concentre plutôt ses énergies? Non, je ne l'ai pas dit. Ça m'apprendra à faire des parenthèses. Maintenant, il concentre plutôt ses énergies sur le transport sécuritaire du pétrole. Alors, Gerald Scott, de la première nation Swan Lake au Manitoba, explique qu'il se dressait auparavant contre ce qu'il voyait comme une violation des droits autochtones. « Je suis un guerrier par nature. » Plus d'un an après son séjour dans les camps de manifestation Sioux, au Dakota du Nord, Gerald Scott compte maintenant parmi les 60 recrues autochtones du programme de surveillance d'oléoduc de l'Institut technologique du Sud de l'Alberta à Calgary. La formation de 3 semaines l'a familiarisé avec les techniques d'inspection, la sûreté et l'opération d'un oléoduc, tout ça à travers un prisme autochtone. Après avoir complété cette portion en classe, les recrues réalisent un stage ou un projet de recherche auprès d'un mentor de l'industrie. Certains étudiants poursuivront leur formation cet été avec un maître chien pour apprendre comment détecter les potentielles fuites. Je ne savais pas qu'il y avait des chiens qui détectaient les fuites de pétrole, mais effectivement, c'est brillant. Armé de ces nouvelles connaissances, Gerald Scott croit pouvoir mieux représenter les intérêts de sa nation auprès de son employeur, le géant pétrolier Enbridge. Et oui, il travaille maintenant pour Enbridge après avoir manifesté au Dakota. C'est intéressant. Le projet de remplacement de la ligne 3 de l'entreprise albertaine, traverse le territoire de la Première Nation Swan Lake. Je suis toujours un guerrier, mais je veux juste la meilleure entente possible pour les gens. Gerald Scott a d'abord commencé à travailler pour Enbridge en tant que puisatier, mais on lui a récemment confié le rôle d'agent de liaison avec la communauté. L'entreprise l'a incité à s'inscrire au projet pilote, ce qu'il a accepté avec l'espoir qu'une carrière en surveillance d'oléoduc lui permettra de rester proche de chez lui. Une autre recrue du programme, Kelsey Jacot, de la Première Nation Cold Lake, aimerait profiter de sa formation pour travailler au sein d'une organisation autochtone. « Ma job de rêve est de prendre soin de mon peuple, de m'assurer que leurs moyens de subsistance sont protégés, leur santé et leur bien-être pour le futur, pour les enfants à venir. » Les affaires tournent surtout autour du pétrole lourd dans la région de Cold Lake, dans l'est de l'Alberta, et Kelsey Jacot s'inquiète des effets de son exploitation sur l'environnement, plus particulièrement sur les caribous. Mais la présence de l'industrie pétrolière est selon lui une réalité à laquelle il faut se faire. « Nous ne pouvons pas retourner dans le temps, mais c'est une lutte », reconnaît-il. « Où se trouve l'équilibre entre l'économie et l'environnement? Nos Premières Nations doivent sortir de la pauvreté. Beaucoup d'entre elles vivent dans les conditions du tiers-monde. » L'ingénieur Dina Burghardt, une membre de la Première Nation Fond du Lac en Saskatchewan, a pris part à l'élaboration du curriculum du programme. Il était important à ses yeux que les étudiants autochtones puissent se reconnaître dans la matière enseignée, notamment par le biais d'études de cas en phase avec leur propre vécu. « Je crois fermement que l'amélioration des relations entre les gens autochtones et non autochtones, avec l'industrie et aussi avec le gouvernement, se produira lorsque nous serons tous plus engagés, plus informés et que nous nous sentirons habilités, avance-t-elle. Le programme a été conçu par l'entremise d'Innotech Alberta, une filiale de l'agence provinciale Alberta Innovates. Son budget de 566 000 $ provient de subventions provinciales et fédérales. Shaunali Chai, une scientifique d'Innotech qui a géré le projet pilote, rapporte avoir reçu 200 candidatures pour seulement 60 places disponibles. Elle juge les Autochtones en bonne position pour garder un œil sur les oléoducs qui traversent souvent des régions reculées. Le mode de vie traditionnel que beaucoup de personnes autochtones pratiquent toujours les maintient à l'extérieur. Ils vivent dans des communautés éloignées. Ils chassent, pêchent, posent des pièges, collectent des petits fruits et des remèdes, décrit-elle. Ils ont intérêt à protéger leurs terres, conclut Madame Chai.
I'm a lonely warrior, trading my guns for a nice girl. I'm light as a feather since I confessed to my mother. I couldn't go further.
De son album Landing, c'était la chanteuse Berries et la pièce The Pursuit of Happiness.
Ah,
c'est beau, hein?
J'aime ça.
Oui, bon.
Merci beaucoup. Et puis, vous avez encore des choses à nous dire sur
Abitibi? Oui. Ben, tantôt, je trouvais que l'article était un petit peu long. J'ai décidé de faire une pause pour écouter de la musique, mais il me reste un petit bout à lire et j'y tiens.
Alors... On vous écoute.
Donc, je vais compléter l'article sur Abitibi. Pour Rémi, l'arrivée est encore à l'horizon. Même aujourd'hui, pour moi, c'est une grande tristesse de ne pas avoir réussi à aller jusqu'au bout de notre rêve avec ce groupe de gars assez spéciaux, aux multiples talents. On avait 4 chanteurs de styles différents, country, punk, rock et R&B.
Quand même, ça fait le tour.
Un beau mix. Il y avait 60 chansons qu'on pouvait jouer. S'il joue encore à l'occasion avec des anciens de César et ses Romains, j'ai vu ça. Parce que César et ses Romains, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
Je n'étais pas né, moi. C'est dans quelle année, ça?
C'est dans les années 60.
Ben, c'est ça, je n'étais pas né.
Milieu, je dirais 65, 66 à peu près. Puis c'était à l'époque où les groupes, chacun des groupes avait un gimmick, un look. Et eux, justement, s'appelaient César et ses Romains. Ben, ils étaient tous en jupe avec style Ben Hur.
Oui, j'ai vu des images, par exemple. Oui. Ah oui. Ah, je vais ajouter ça dans ma playlist tout de suite en arrivant chez moi.
Ouais, le plus grand succès de César et ses Romains, qui était une traduction de Splash aussi, qui est une chanson qui avait été popularisée par Bobby Darin, je pense.
Ah oui, bon.
Et voilà, César et ses Romains. Donc, j'ai appris là aussi, quand il dit s'il joue encore à l'occasion avec des anciens de César et ses Romains, des gars de Rouyn-Noranda, eux aussi.
Ah
et
ouais? Ah, mais ça, je ne savais pas moi non plus. Non. Vous le saviez, Jean-Sébastien? Vous,
même
c'est votre,
pas.
Non, je vous en apprends des choses. C'est pour ça que j'y tenais à lire ce petit bout-là, quand même. Tu sais.
Eh ben.
Donc, ils sont fous, ces Romains, en Abitibi. Rémi serait prêt demain matin à relancer Abitibi, à tout le moins, pour que cet album réédité vive sur scène. Pour moi, ce serait un grand plaisir et un honneur de refaire ça en show. Donc, je ne sais pas s'il annonce quelque chose. Il va peut-être avoir de la difficulté un peu.
Il essaie de tordre un bras à Richard Desjardins, mais ça serait
pas le bon timing pour Richard Desjardins, mais peut-être qu'il y a un espoir.
Ben, il y a encore le temps. S'il y en a qui sont capables encore à 90 ans de chanter, là, Richard Desjardins, il y a encore le temps.
Oui, il doit être capable. Il est quand même plus que content. Le Boomtown Café d'Abitibi a désormais sa place dans la discographie de Richard Desjardins et la sienne. Enfin, les gens vont savoir que les débuts de Richard se sont faits avec nous et non quand il a été connu en solo. Tout le travail du groupe est passé inaperçu à travers les années. On sent un petit peu d'envie.
Ben oui, mais en même temps, il l'a toujours dit, Richard Desjardins.
Ouais, ben
au contraire,
oui, il l'a annoncé qu'il venait de.
Ouais, mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas autant Abitibi que.
Là, ça valait la peine de refaire ça. Je crois que nous étions les premiers musiciens d'expérience avec qui il travaillait. Rémi Perron est fier, mais ne bombe pas trop le torse. On n'était pas si mal comme musicien. Richard, dans le livret, sait à qui revient le crédit. C'est en grosse partie grâce à lui que j'ai le bonheur d'être un artiste.
Chaud était la nuit, j'y glissais dans mon canot d'acajou.
Alors, je vous fais ça rapidement, puisqu'il ne reste pas tant que ça. Maïté Labrecque-Saganache, dans le journal Métro, elle a une chronique. Et c'est une vieille chronique qui date du 28 septembre 2017 que je suis allée chercher parce que, en fait, c'est un autre article qui nous parlait d'un livre sur les tatouages, le retour des tatouages inuits. Ça m'a donné l'envie de... C'était une toute petite brève. Ça m'a donné envie d'aller en connaître plus. Et j'ai trouvé cet article-là. Donc, j'ai toujours été fascinée par les tatouages. Il y a une dizaine d'années, mon père est revenu d'un voyage en terre maori, la poitrine ornée d'un magnifique moko. Les maoris ont un style traditionnel de tatouage que vous connaissez probablement. Le style polynésien est assez distinctif et répandu. Les maoris ne sont pas les seuls à se réapproprier leur moko, leur tatouage. Ici, au Canada, les Autochtones font un véritable travail de revitalisation des modifications corporelles. De même, au moment où elle écrivait l'article, il y avait un événement qui se préparait. Plusieurs artistes de partout au pays se réuniront au camp Nimki Ajibikong, un camp culturel autochtone en Ontario. Là-bas, dans la forêt, on donne des cours de langue afin d'assurer leur survie. Mais demain, les tatouages seront à l'honneur. Le traditionnel Indigenous Tattoo Gathering réunit une liste assez impressionnante d'artistes. Christy Belcourt, Canaus Manuel, Isaac Murdoch, Alethea Arnakuk Barry, Marjorie Tarbone et plusieurs autres. Ils sont Sekwempek, Inuit, Anishinaabe, Inuit, dit deux fois Inuit, merci. Haudenosaunee, Maori, Métis, Inupiaq, Zahuatlan et Nilkapamux. Et ils tatoueront, parleront des enseignements derrière le style respectif et se réapproprieront ce qui a été un jour interdit. Avant la colonisation, beaucoup d'Autochtones du Canada arboraient des tatouages, que ce soit sur le visage, les doigts, les bras, les jambes et même sur tout le corps, des motifs et des dessins leur étaient transmis par leurs rêves ou par leurs aînés. Il est dur de dresser un portrait global des tatouages traditionnels car les cultures et les enseignements à l'origine de ceux-ci varient énormément et sont très riches. Et si vous voulez plus d'informations, ben vous pouvez aller lire l'article au complet sur le site du journal Métro. En cherchant Maïté Labrecque Saganache, vous aurez toutes ces chroniques. Et c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Sébastien La Liberté, à la mise en onde et au soutien pour les choix musicaux. Toujours là pour nous trouver des petites merveilles. Et ben merci Daniel Lachance.
Merci d'être là.
Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous dis à la semaine prochaine.